414 $ en une seule journée. C'est ce que Mel Vanks a dépensé en tokens cloud en testant Fable 5 sur un projet réel de migration d'applications. Pas un jouet, pas une démo Twitter, une vraie migration de Postgres et Redis vers Convex avec une application mobile on-prem. Et sa conclusion n'était pas « c'est trop cher ». C'était « ce modèle est extraordinairement puissant, mais la vraie question n'est pas « peut-il le faire ?» c'est « est-ce que ça vaut le prix pour ce job précis ?» Voilà le fil conducteur de cette semaine. Pas les benchmarks, pas les annonces. La question économique et stratégique derrière Claude Fable 5 et ce qu'elle révèle sur la direction que prend Anthropic. Commençons par les faits techniques, parce qu'ils sont importants. Fable 5 est basé sur l'architecture Mythos. La version complète, sans garde-fous, reste réservée à des partenaires sélectionnés via le Project Glasswing. Ce qu'on reçoit avec Fable, c'est Mythos avec des restrictions activées sur la cybersécurité et les sciences du vivant. Sur le benchmark SWE Bench, il atteint 80% contre 69% pour Opus 4.8. Nate Herc, dans sa vidéo « Claude Mythos is finally here », a été le premier à détailler ces chiffres et à souligner les améliorations sur les tâches autonomes longues. Le modèle peut maintenant travailler sur des missions de plusieurs heures sans intervention manuelle. II Explained a passé en revue les 319 pages de notes de version d'Anthropic et confirme les gains particulièrement nets sur le coding agentique, le raisonnement spatial et la vision. Mais voilà ce qui est frappant. Dans presque toutes les vidéos de la semaine, les benchmarks ont été mentionnés en passant. Les vraies discussions portaient sur autre chose. Mark Kashef, dans Don't Use Claude Fable 5 Until You See This, a fait quelque chose d'utile. Il a extrait le système prompt du modèle et constaté qu'il ressemble à 80% à celui d'Opus 4.8. Les nouveautés sont des protections explicites contre les abus en biologie et en santé. Ce qui l'a conduit à une observation pratique. Quand vous posez des questions légitimes sur la cybersécurité, Fable se rétracte automatiquement vers Opus 4.8. Pour un usage quotidien, Opus reste plus fiable sur ce terrain. Son conseil central, ne pas utiliser Fable comme modèle par défaut. Utilisez Fable High pour la planification et la spécification, Opus ou Sonnet pour l'exécution, puis Fable Low pour la vérification et l'école limite. Il appelle ça une stratégie de modulation par niveau d'effort et démontre comment switcher en mid-session avec une simple commande. Brian Castle est arrivé à la même conclusion de façon indépendante. Dans Claude Fable, Build Me an App, il teste le modèle sur un vrai projet business. Une extension de son outil Residence Radar pour monitorer YouTube, Twitter, Reddit et LinkedIn. Son processus, d'abord utiliser Fable intensément pour la réflexion stratégique, documenter les décisions dans un scoping document avec des critères de vérification explicites, puis passer à Claude Code avec Fable pour l'implémentation. Sa conclusion? La phase de raffinement post-build s'est considérablement réduite parce que le modèle avait des critères clairs et pouvait vérifier son propre travail. Mais il insiste. Le planning professionnel, pas le code, est devenu la compétence critique. Et c'est apprenable même sans background technique. Cole Madden avait nommé ce pattern dans son live Q&A, le model stacking. Planning avec les modèles les plus puissants, exécution avec les moins chers, validation à nouveau avec les meilleurs. Il estime que ça économise des centaines de milliers de tokens pour des résultats comparables. Sa correction du mythe de la productivité 10x est aussi intéressante. Les développeurs n'utilisent pas l'IA pour construire 10 fois plus de features. Ils utilisent l'IA pour traiter le backlog, le refactoring, les tests, les hardening de sécurité. La vraie amélioration de productivité, dit-il, est plutôt de l'ordre de 2 à 3 fois. Bien faite. Maintenant, la partie qui a créé le plus de friction cette semaine. Le Channel IAA et Stratégie a publié une analyse que je trouve particulièrement honnête, intitulée « Claude Fable 5, qui gagne, qui perd et quoi faire avant le 23 juin ». La thèse centrale, le vrai moteur du rollout de Fable n'est pas technique, c'est financier. Anthropic affiche une marge de 5 %, 559 millions sur 11 milliards, et cette rentabilité repose en partie sur des rabais temporaires liés au data center de Memphis, qui expirent en juin. À partir du 23 juin, Fable disparaît des abonnements illimités et passe en facturation à l'usage. Ce n'est pas une nécessité technique. C'est une préparation au Filling IPO du 7 juin. Le Channel note aussi que Microsoft, Uber et d'autres grandes entreprises tech ont déjà commencé à plafonner leurs dépenses en tokens et à construire des alternatives locales. La pression vient des deux côtés. En bas, des modèles chinois gratuits qui montent en qualité. En haut, le besoin de démontrer de la profitabilité avant une introduction en bourse. Anthropic se retrouve comprimé et utilise le Metering comme seule sortie viable. Fireship et Theo ont commenté la même dynamique avec plus de scepticisme. Fireship, dans Anthropic is starting to panic, a noté l'ironie d'une entreprise qui avertit publiquement des dangers de l'IA récursive tout en préparant un IPO. Theo, dans I didn't expect this from Anthropic, a pris le rapport d'Anthropic sur l'amélioration récursive au sérieux. Trois scénarios possibles. Stagnation, automatisation forte avec contrôle humain maintenu ou autonomie totale hors contrôle, mais a refusé d'en tirer des conclusions définitives. Nate Herc, lui, a défendu la thèse AGI ouvertement dans AGI is here, Anthropic just proved it. Il s'appuie sur les propres données d'Anthropic. Claude réussit 76% des tâches ouvertes et non structurées, contre 26% il y a 6 mois. Des tâches qui durent 12 heures. Des décisions qui ont parfois surpassé les jugements de chercheurs humains. Sa définition de l'AGI, la capacité à résoudre des problèmes ouverts et ambigus de façon autonome. Pour lui, c'est déjà là. C'est une position que Fireship et Theo ont refusé d'endosser. Melvinks a choisi une posture différente de celle du débat AGI. Dans Tuer le bienvenu, il a directement attaqué le sujet du lock-in. Sa mise en garde, les acteurs dominants, Anthropic, OpenAI, les modèles chinois, construisent tous des stratégies pour rendre le changement de plateforme coûteux. Sa réponse personnelle. Utiliser Claude, Cursor et Codex en parallèle, s'assurer de ne jamais dépendre d'un seul outil. Et il a joint le geste à la parole en publiant un tutoriel « Migration de Claude à Codex », présentant un outil CLI open source, une seule commande, moins de 5 secondes, qui migre toutes vos configurations Claude vers Codex en créant des symlinks. La portabilité comme principe de design. Ce qui nous amène à Herms, qui a reçu cette semaine une attention considérable en tant que contrepoids open source, Morpheum. Tech with Tim a publié un cours complet pour débutants sur Air Messaging. Julian Goldie a démontré 5 cas d'usage concret et montré comment gérer un workflow SEO entier depuis un seul dashboard. Un agent pour la recherche de mots-clés, un pour la création de contenu, un pour les liens internes, le tout orchestré via Hermes avec une couche mémoire dans Obsidian. Brian Castle a expliqué sa division du travail. Hermes pour les automatisations de fond, Claude Cowork pour les tâches créatives à haute valeur. Ce n'est pas Hermes ou Claude, c'est les deux, chacun à sa place. La contribution la plus concrète vient de Bart Slodicka dans Five Things to Try with Claude Fable 5. Son idée, utiliser les 10 jours restants d'accès à Fable dans votre abonnement pour entraîner vos setups locaux Hermes. Demandez à Fable de documenter les skills, les instructions et les configurations que des modèles moins chers, Hermes avec Gemma 4, pourront ensuite exécuter. C'est un plan de migration opérationnelle concret qui transforme le lock-in d'Anthropic en opportunité de construction d'infrastructures locales. Il a aussi testé Gemma 4.12b de Google sur son Mac Mini 6 Go. Le modèle tourne, pas vite, mais il tourne et il atteint des performances proches du 26b en consommant 2 fois moins de mémoire. Gemma 4.12b a d'ailleurs reçu des tests indépendants de World of AI et Tim Karambat cette semaine. Aucun des deux n'a présenté ça comme un événement dramatique. Mais collectivement, ces tests envoient un signal discret. La partie open source rattrape son retard sur le hardware grand public. Cole Madden, de son côté, a démontré dans Google's Agent CLI un workflow complet de production d'agents sans aucune dépendance Anthropic. Google ADK Agent CLI, déploiement sur Google Cloud. Il note que les frameworks comme ADK ou LangGraph restent plus rapides et moins coûteux que les SDK propriétaires pour les systèmes en production. Il y a eu un outlier cette semaine qui mérite d'être mentionné séparément parce qu'il se situe complètement en dehors du cluster habituel. David Shapiro a publié « This is my next big work », une présentation de sa prochaine ligne de travail qu'il appelle « Credible Threats », une théorie réaliste des droits après l'automatisation. Sa thèse est construite sur de la théorie des jeux et de l'histoire. Le travail humain a toujours été le fondement de la démocratie parce qu'il donnait aux gens une menace crédible, la capacité de refuser, de faire grève, de rendre la répression plus coûteuse que la concession. Les droits du travail, le suffrage universel, les congés payés, tout ça a été arraché, pas accordé. Avec l'automatisation complète, cette double dépendance mutuelle s'effondre. Les élites n'ont plus besoin des travailleurs. Les travailleurs n'ont plus de levier. La résistance non violente réussit dans 53 % des cas historiques contre 26 % pour la résistance violente. Le seuil de participation active pour un changement de régime est historiquement de 3 à 5. Ce n'est pas une vidéo sur des outils. C'est une analyse politique et économique de ce qui se passe structurellement quand la productivité humaine devient obsolète. C'était thématiquement l'une des contributions les plus substantielles de la semaine, précisément parce qu'elle refusait de parler de modèle. Pour finir, une pensée qui résume ce que cette semaine a vraiment montré. Fable 5 est un modèle remarquable. Les tests le confirment. Mais la semaine n'a pas été dominée par l'émerveillement technique. Elle a été dominée par une question de structure. À qui profite réellement ce niveau de puissance et à quel prix, au sens propre comme au sens figuré? La réponse qui émerge de façon convergente depuis une douzaine de créateurs indépendants est la même. La valeur n'est pas dans le modèle le plus puissant utilisé partout. Elle est dans la capacité à router intelligemment entre les modèles selon la tâche, à ne pas se lier à un seul fournisseur et à construire des systèmes qui fonctionnent aussi quand le modèle premium n'est plus dans votre abonnement. Ce n'est pas une critique d'Anthropic. C'est une description de maturité dans l'usage de ces outils. Et le fait que cette conversation ait lieu aussi largement cette semaine, avec des plans de migration concrets, des workflows multimodèles documentés, des alternatives open source testées, suggère que la communauté est en train de passer d'une posture d'adoption à une posture d'architecture. Ce glissement-là était peut-être plus important que n'importe quel benchmark.